Saint-Pierre est un pauvre artisan juif, pêcheur du lac de Galilée. Mais c'est le premier des apôtres. Saint-Paul est un intellectuel brillant de la diaspora juive. Et c'est le dernier des apôtres, comme il le dit lui-même. Pierre est impulsif et généreux, inconstant et même lâche, au point de renier son Seigneur dans la nuit de la Passion à Jérusalem et d'abandonner la charité fraternelle par peur des chrétiens judaïsants à Antioche. Mais c'est lui, le premier, qui confesse que Jésus est le Messie, lui qui n'a pas étudié les Écritures, mais qui reçoit par révélation du Père l'identité du Christ et qui devient, malgré ses défaillances, le rocher sur lequel l'Église est édifiée. Paul n'a connu ni Jésus ni ses disciples en Galilée. Il a été converti par le Christ glorieux sur le chemin de Damas. Et l'expert de la loi de Moïse, pharisien persécuteur au salut de Zélote, est devenu le persécuté pour l'amour du Christ, imitant ses souffrances et bravant les dangers pour servir les églises. Mais c'est lui, malgré ses faiblesses, la lumière par laquelle l'Église est éclairée. Sur Pierre, l'Église est fondée. Par Paul, elle est illuminée. Pierre est l'apôtre des Juifs. À cause de ses miracles et de ses discours, qui convertissent à Jérusalem des milliers d'Israélites, Paul est l'apôtre des païens, à cause de ses missions qui évangélisent en Méditerranée des foules de Grecs et de barbares. Les deux hommes sont foncièrement différents, souvent dépeints comme s'embrassant dans la concorde et l'harmonie, pour mieux montrer que leurs oppositions se sont dues à leur point d'arrivée à Rome, où ils ont été tous les deux martyrisés sous l'empereur Néron dans les années 64 à 67. Le pécheur galiléen subit le supplice de la croix, la tête en bas, car il se sent indigne d'être traité comme le Christ. Il meurt près du cirque du Vatican, sur la rive droite du Tigre. Le rabbin pharisien, citoyen romain, est décapité au glaive le long de la route d'Ostie sur la rive gauche du Tigre. Leurs morts sont célébrées conjointement le 29 juin, en lieu et place de Romulus et Rémulus. De ces deux frères, père de la ville de Rome, élevé par les Louvres, Romulus, qui donna son nom à la cité, tua son frère Rémulus. Mais leur fête céda la place à celle des deux apôtres juifs, élevés dans la foi au Dieu un, devenus frères du Christ et père de l'Église de Rome, les deux étant ensemble, pour citer Benoît XVI, les initiateurs d'une cité nouvelle, d'une manière nouvelle et authentique d'être frère grâce à l'Évangile du Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'Église est fondée sur Pierre, confessant sa foi. Super arbitram edificarum ecclesia mea. Mais l'unité de l'Église communion fraternelle de saint Pierre avec saint Paul dans leur mission respective, c'est-à-dire sur l'unité ou la communion fraternelle des Juifs et des païens dans le même Esprit Saint, unité ou réconciliation fraternelle d'Israël et des nations dans le même sang du Christ. L'Église une et indivisible ne repose donc pas en son fond sur la concorde ou l'harmonie des différents degrés de l'échelle sociale, depuis les Saint-Pierre jusqu'au Saint-Paul. Certes, elle y contribue. Mais l'Église une, sainte, catholique et apostolique, repose en son fond sur l'avènement de la paix entre les fils d'Israël et ceux de la gentilité, les uns et les autres étant foncièrement différents, souvent même opposés, mais tous réunis dans la même obéissance à leur Seigneur crucifié et ressuscité. Les païens ont en eux le besoin de la nature humaine, de sentir le divin, le voir, l'entendre, le toucher, être affecté par lui, au point que saint Paul doit dire aux chrétiens de Corinthe, l'essentiel est invisible. Tandis que les Juifs portent en eux, depuis l'Ancien Testament, l'exigence de dépasser toujours et de transcender toutes les expériences sensibles et affectives de Dieu. Le général romain Titus, entrant dans le temple de Jérusalem, est stupéfait de voir que le Saint des Saints est vide de toute représentation de Dieu, de toute statue et de toute nature. C'est de cette communion fraternelle entre ces deux missions, auprès des Juifs et auprès des païens, que l'Église est née et qu'en permanence elle se maintient. Quoi qu'il en soit, donc, mes frères, des statistiques aujourd'hui, et de ceux qui demandent le baptême en étant fils d'Israël ou de la gentilité, le ministère de Pierre et de ses successeurs, les papes, contient l'appel permanent et spirituellement sémite à dépasser toujours ce qu'on peut voir de Dieu dans l'Église, ce qu'on peut en sentir, en toucher, en aimer. Bref, le ministère de Pierre et des papes rappelle toujours qu'au cœur de ces institutions visibles, l'Église est un mystère de grâce essentiel et invisible qui échappe au regard du monde et que seul un regard de foi, d'espérance et de charité peut voir avec les yeux du cœur. Mais ce regard, ce point de vue, cette mystique, doit aussi communier inséparablement et fraternellement avec ce que le ministère de Paul représente. C'est-à-dire avec l'investissement critique dans la culture païenne, avec la confrontation au paganisme interconviste, avec aujourd'hui l'évangélisation des sociétés sécularisées où le sens de Dieu décline alors que l'attente de Dieu n'y décline pas. La communion de Pierre et de Paul, c'est le mystère de la grâce uni inséparablement et fraternellement au beau combat pour la vérité de l'Évangile qui révèle qui est Dieu et qui sont l'homme et la femme. Fêtez les deux apôtres protecteurs de l'Église de Rome. c'est se garder dans le mystère de la grâce, en aimant Dieu et son prochain, alors même qu'on est pris dans les rapports de force qui opposent les croyances et les cœurs droits aux idéologies déshumanisantes. Célébrer les deux colonnes de l'Église universelle, c'est donner sereinement le courage de Dieu dans un monde où la négation de l'homme est constante et où les chrétiens doivent se départir de plus en plus des conformismes sociaux. En un mot, en honorant ce matin Saint-Pierre et Saint-Paul, nous honorons une nouvelle manière d'être frères. Dans la confrontation avec des instances extérieures à l'Église, mais aussi, faudrait-il ajouter quelquefois, dans la confrontation avec des instances intérieures à la vie institutionnelle de l'Église. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. En d'autres termes, le témoignage du Christ que nous portons à notre société n'est pas seulement l'affirmation parfois coûteuse de la vérité sur l'homme, sur la famille et sur la vie humaine. Vérité universelle que la conscience universelle reçoit et approuve parce qu'elle doit assumer la responsabilité des générations. Le témoignage du Christ que nous portons à notre société doit être aussi la manifestation vivante d'une fraternité spirituelle effective, dans un monde qui perd sa capacité d'intégrer les différences dans un projet commun, dans un monde où la négation des différences expose au risque grandissant de retour très violent. La mémoire vive des apôtres Pierre et Paul faisait dire au pape de Poissons que même l'homme du troisième millénaire désire une vie authentique et pleine, qu'il a besoin de vérité, de liberté profonde et d'amour gratuit, et que même dans les déserts du monde sécularisé, l'âme de l'homme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ajoutons que cette âme a soif de la communion des saints, c'est-à-dire de la communion des frères unifiés par le Christ. Si l'Occident d'aujourd'hui donne parfois la pression d'osciller entre la Rome païenne et la Rome décadente, il porte en lui néanmoins la racine de son renouvellement et de sa régénération dans la communion éternelle des deux colonnes chrétiennes de Rome. C'est que l'Église est dans le monde une immense force rénovatrice, malgré le poids des siècles. C'est qu'elle est comme notre Dieu, cette Église catholique. Elle est plus jeune que nous. C'est nous qui vieillissons, pas elle. Elle est plus jeune et plus ouverte à l'avenir, au-delà de la décadence actuelle qui ne serait pas la première à laquelle elle se dirigerait. Pierre baptisait dans les eaux du Tibre, Paul évangélisait dans son logement romain. Leur martyr a scellé la communion première qui unit à jamais dans l'Église la transcendance de la grâce et le combat pour le salut du monde. Qu'unis à notre tour aux successeurs de Pierre et de tous les apôtres, nos cœurs chantent maintenant la foi de tous.